19h-20h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM pour une nouvelle émission en ce jeudi 17 septembre. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on rappelle que vous pouvez réagir comme d'habitude chaque soir avec toute l'équipe en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère. Un petit clin d'œil à notre community manager Farid Rouas au menu de cette émission ce soir. À quand la fameuse évolution du Real Madrid version Zinedine Zidane? Nous recevrons ce soir Tony Ayache, analyste vidéo dans le club de L'En Avant Guingamp, et Florian Cusenza, analyste vidéo dans le club de Montpellier, et aussi qui nous parleront de cette fameuse école qui a ouvert, eh oui, dans Paris, et on aimerait aussi la voir dans toute la France, ça c'est promis. Un Paris encore sur le fil hier soir avec un Draxler qui était présent. Bale, direction Tottenham Hotspur. Et oui, on verra aussi la situation et les dernières infos du Tour de France. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le coach Tolé, El Presidente Kamel Aïd Kaira, mais aussi Valentin, pourquoi pas, parler avec toi aussi de la grande boucle.
Comment tu vas?
Je vais très très bien, moi.
Je suis en forme, là. J'ai entendu le programme là, que tu as énoncé. Là, je suis d'attaque pour parler de tout ça.
Ça, c'est chaud.
En forme.
On l'espère. Mourad est avec nous aussi. Comment ça va, Mourad?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Et super programme aujourd'hui. Donc, ravi d'en découdre.
Allez, un petit clin d'œil aussi à Loïc Caudron qui nous écoute ce soir. Et un nombre de personnes, notamment du côté de Bourges et de Carcassonne avec le 107.3. Nous, on prend la direction de la capitale espagnole.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, que dire, Mourad? À quand justement cette fameuse révolution, l'évolution des merengues, Mahrez dans les petits papiers de Zinedine Zidane avec le départ justement et ce départ annoncé de Gareth Bale? Que dire encore une fois? Yacine Bouhali n'avait pas tort.
Ben moi, en termes de révolution, je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. Révolution, c'est quand l'autorité en place est remise en cause. Aujourd'hui, je pense que Zinedine Zidane et Florentino Pérez, ils sont bien installés. Ils sortent aussi, même s'il n'est pas le Bayern de 2020 qui veut, ils sortent, ils ont fini champion d'Espagne, ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne, ils ont un effectif aujourd'hui qui est bien calibré, il y a des jeunes prometteurs, il y a des joueurs expérimentés, donc moi, la révolution au Real Madrid, je pense que c'est un peu trop tôt. Je parlerai plutôt d'un grand ménage en 2020. Un grand ménage, on le voit actuellement.
On est en 2020, hein. Tu l'annonces pas pour 2021 comme Jouba l'avait fait.
Justement, moi, la révolution au Real Madrid, je la vois pour 2021, avec pourquoi pas l'arrivée de Kylian Mbappé, de Camavinga, mais aussi l'ouverture du stade rénové du Real Madrid avec le nouveau toit, etc. Ouais. Mais je pense qu'on est plutôt dans un grand ménage avec, on a vu, les départs de James Rodriguez, Gareth Bale proche des Spurs, de Tottenham. Il y a un grand ménage qui se fait, Jovic aussi qui est annoncé sur le départ, il y a les joueurs en prêt qui sont repartis, même qui sont vendus, je pense à Reguilon aussi, qui est arrière-gauche, qui était à Séville. Donc, révolution trop prématurée, mais plutôt un grand ménage classique.
Ouais, Valentin, on l'écoute.
Moi, j'entends dire souvent que le Real Madrid est en crise, alors que, comme a dit Mourad, ils ont quand même gagné le championnat et la coupe.
Ils sont présents.
Donc, ils sont présents. Ils ne gagnent pas souvent le championnat, c'est souvent le FC Barcelone qui le gagne tous les ans. Et on dit ça parce que je pense qu'en Coupe d'Europe, ils n'ont pas été au rendez-vous, mais ils sont quand même tombés face à Manchester City, qui n'a pas fait un bon match face à Lyon, qui a été éliminé. Mais on peut pas forcément leur tirer dessus parce que ils tombent face à une équipe quand même qui avait des arguments en face. Moi, je pense que c'est plus au niveau des individualités. Peux prendre l'exemple d'Eden Hazard qu'on attend au tournant cette saison.
Lui nous disait que c'était la nouvelle recrue peut-être pour la saison.
Moi, je le vois comme une nouvelle recrue.
Comme s'il avait fait page blanche la saison dernière.
Exactement.
Et que là, c'est
le syndrome de la deuxième saison. Ouais. La première saison est compliquée. Il arrive comme une recrue pour cette saison. Donc, je pense qu'il faudra compter sur lui. Au même titre qu'on continue au Barça.
Modric lui a dit il faut que tu sois prêt cette saison, sinon ça va être compliqué.
Ouais, c'est clair. Donc moi, ce titre, je trouve un peu trop extrapolé. Si on parle de révolution au Real Madrid, alors on parle de quoi à Manchester City, à la Juve, on parlerait de Big Bang.
Parce qu'on on a eu l'habitude de les voir gagner la Ligue des Champions. Là, c'est plus le cas depuis le départ de Ronaldo. Mais je pense que voilà, au niveau national, ils ont fait les choses qu'il fallait faire. Et puis il faut leur laisser le temps de reconstruire aussi un projet. Parce que quand on a l'habitude de gagner, pour se renouveler aussi mentalement, psychologiquement, c'est
quand on est trop habitué au caviar, c'est difficile de revenir aux œufs de lampe.
Donc, on l'écoute.
La réalité aussi, c'est que alors là, vous parliez des joueurs indésirables ou qui n'ont pas porté satisfaction au Real Madrid. On peut même aussi parler de ses titulaires. Les titulaires ont la plupart une trentaine d'années passées. Et il va falloir aussi préparer cet avenir-là.
Je suis pas d'accord, au niveau des titulaires.
Quand tu vois quand même Ramos, quand tu vois
les cadres.
Je parle des cadres. Ouais. Ils ont quand même en moyenne 33, 34 ans, les gars. Bien sûr. Donc ils vont pas continuer à jouer éternellement.
Ouais.
Et quand on regarde le recrutement du Real Madrid ces dernières saisons, ils ont tenté d'aller chercher des joueurs à fort potentiel et malheureusement. Ça s'est cassé la gueule.
Bien sûr.
Ça a été un échec. Donc oui, il y a ce ménage parce que aussi la crise a touché même le Real Madrid. Oui, on laisse de la place pour des recrutements tels Mbappé éventuel ou Camavinga ou d'autres joueurs.
Ouais, une révolution ça se prépare.
Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'ils ont ils ont surfé sur ces trois Ligues des Champions. Ils ont une qualité de groupe exceptionnelle. Mais il va falloir véritablement préparer l'avenir auprès. Les cadres ne resteront pas éternellement.
Ils ont
peut-être un an et demi au maximum. Mais après, qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à les remplacer?
C'est pas faux.
Et puis lorsque tu remportes, comme tu l'as dit, la Ligue des Champions
à plusieurs reprises,
il y a un engouement. Et puis tu dois renouveler aussi ton effectif parce qu'il y a un moment il y a une fatigue. Et puis,
je pense que la première étape du renouvellement, comme tu dis, c'est Bale. Déjà s'il part, ça serait une belle étape de franchie parce que c'est quand même ce transfert traîne depuis très très longtemps.
Oui,
et ce serait bien en plus qu'il retrouve la Première Ligue à titre perso pour lui déjà.
Bale, je pense qu'il est sur la sortie depuis plusieurs mois déjà. Après, pour en revenir à ce que disait Claude, au niveau des cadres, je pense notamment au Milan AC 2007, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait un effectif qui était, la pyramide des âges était très élevée. Il y avait des Serginho, il y avait des, je sais même plus s'il y avait des Cafu, il y avait des Maldini, il y avait des Ambrosini, etc. Je crois que le plus jeune c'était Kaka et ça les a pas empêchés de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un backup à certains cadres, notamment un Benzema qui a besoin de souffler, notamment un Sergio Ramos, qui a été remplacé
par
Militao.
Alors qui il faudra souffler? La personne de Mahrez.
Benzema, je pense que Mahrez, il a une place à prendre en tant que titulaire au Real Madrid. Parce que si on regarde au niveau des postes déliés au Real Madrid, il y a qui?
Il y a Rodrigo, il y a Vinicius,
qui sont jeunes, c'est pas des titulaires indiscutables. Il y a Asensio, il y a Bale qui est sur le départ, James Rodriguez qui est parti. Moi, je pense que
s'il y a une saison pour Mahrez, c'est maintenant.
Je pense que c'est le bon moment pour lui de s'installer, non pas en tant que titulaire, parce qu'on voit que Zidane, il est quand même, il change beaucoup de schéma, il s'inscrit beaucoup dans la rotation, etc. Je pense qu'il y a une place à prendre pour Riyad Mahrez cette saison en rejoignant le Real Madrid.
La rotation, mais si, pour moi, si tu le recrutes, c'est pour l'amener à le faire jouer lors des grands matchs.
Dès que je dis rotation, c'est rotation fine. Je pense qu'il serait à 70% titulaire au Real Madrid actuellement, Riyad Mahrez, s'il arrivait à s'imposer.
Attends, le Real ne fait plus peur.
Mais si le Real ne fait plus peur,
qui a dit ça? Il y en a plein qui disent. Moi, je reprends ce que les gens disent.
Il a raison.
On a répondu à ça tout à l'heure.
Si le Real ne fait plus peur, qui fait peur aujourd'hui?
Observateurs, ouais.
Qui fait peur aujourd'hui dans ce cas si le Real ne fait plus peur?
Le PSG. Moi, pour moi, à part le match contre City perdu en Ligue des Champions, ils n'ont pas fait de pas de travers. Après, j'ai parlé de quelques individualités qui n'étaient pas forcément au niveau. Mais sinon, moi, j'ai rien à reprocher à ce Real. Je pense qu'après,
je pense qu'il y a juste des réajustements à faire. Je pense que pour avoir peur du Real, il faut simplement aller se balader dans les couloirs de Santiago Bernabéu. Quand on voit la salle des trophées, on est plus que surpris. Le Real fera toujours peur. De toute façon, on peut toujours compter sur les gros. Après, c'est des cycles. Année par année, on va pas appuyer sur reset à chaque fois qu'un club gagne la Ligue des Champions.
Ils ont fini champion là.
Et ils ont gagné.
Ils ont fini champion.
Ouais, ils ont fini champion d'Espagne. Le champion d'Espagne fait peur, de facto. Ouais. Le champion d'Espagne fait peur. Après, ils ont gagné 2016, 2017, 2018. On pourra parler de Bale, on pourra parler de plein de joueurs, mais après, je te laisse relancer le débat, Bilal. Mais au niveau de Gareth Bale, moi, je disais même que c'était un échec.
On va revenir à Gareth Bale.
Je laisserai en revenir parce que j'en ai gros sur la patate là.
Non, on va s'intéresser plutôt à la formation. Ça, c'est parti. Time Sport. Eh oui, la fameuse école des métiers du football à qui nous pensons ce soir. Et avec deux invités de marque avec nous, Tony Ayache, on le rappelle, analyste vidéo de Hannover Guingamp et responsable justement pédagogique de la formation au sein même de cette école. C'est bien ça?
Exactement.
Tony, voilà. Et aussi, on a avec nous Florian Cusenza, analyste vidéo au Montpellier Football, formateur, à la formation. On est bien d'accord? Justement. On peut retrouver quoi? La particularité de l'école aussi, c'est cette utilisation du logiciel numéro 1 en France, utilisé par tous les clubs pro français. Que dire de cette école? On aimerait en savoir plus. Les parents qui nous écoutent ce soir, les amoureux du football, et aussi, eh ben, on a un professeur avec nous aussi, on a la personne du coach Tollet qui entraîne aussi dans le football féminin. Mais nous, amoureux de sport. On vous écoute, Tony, Florian?
pour retrouver quoi?
Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci hein, de pouvoir nous accueillir ce soir, Bilal. Cette école des métiers du football, elle représente plein de choses. Déjà, elle représente plein de formations. C'est-à-dire que on a une formation en tant qu'analyste vidéo, dont Flo et moi on peut s'occuper. Et puis on a des formations sur le recrutement. On a des formations sur le coach mental. On a des formations en tant que journaliste sportif. Voilà, vraiment tout ce qui tourne autour du football. On a vraiment voulu être axé autour du football. Après, concernant cette formation d'analyste vidéo, la formation qui se déroule en ce moment même sur Paris, exactement sur Boulogne, elle est top, cette formation. Elle est top.
C'est la
première formation en France où est-ce que vous allez pouvoir travailler tout d'abord sur le logiciel, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, sur Sportscode. Sportscode, c'est un logiciel qu'utilise tous les analystes vidéo et tous les clubs français professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Et tous les clubs aussi qui peuvent être un niveau en dessous et qui l'utilisent très bien. Donc ça, déjà, c'est une formation et un bagage qui est énorme quand on veut se former dans la vidéo, parce que quand on arrive avec une formation avec ce logiciel tel que Sportscode, on est pris au sérieux. Dans un deuxième temps, la particularité de cette école et ça, je vous l'assure, on est vraiment les seuls en France à pouvoir le faire, c'est que c'est nous qui trouvons un stage, ok, à nos stagiaires, à nos élèves en club professionnel.
Ça, c'est pas mal.
C'est-à-dire que...
Ça me fait penser un peu au schéma des écoles de commerce.
Ça, c'est fou quand même.
Où il y a un stage qui est garanti et ça permet de mettre le pied à l'étrier pour des expériences professionnelles, à la place d'avoir une formation théorique où on est lâché dans la nature, a posteriori, où on sait plus trop où aller.
Et une école accessible à tous, on a l'impression. C'est ça, Florian?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, par le biais de Tony, les élèves, ils contactent Tony et après... Du coup, ça se fait. Tony leur trouve un club s'ils en ont déjà un.
Bien sûr.
S'ils en ont un. Et à savoir que quand même le stage dans la formation, c'est très très important.
Ouais.
Quand à la fin de la formation, on a un diplôme avec le logiciel Sportscode by Yodel, c'est quelque chose. Mais surtout, quand on a sur notre CV le logo d'un club professionnel, là, ça fait la différence quand même.
Ouais, c'est pas rien. Voilà. C'est sûr. L'aventure, c'est quoi qui vous plaît? C'est tout nouveau, c'est récent, on a démocratisé par l'intermédiaire de cette école. C'est ça en quelque sorte. Vraiment, Tony?
Ouais. Ouais, non. Alors, toi aussi, Flo, mais mais moi déjà ce qui me plaît et ce que je voulais faire depuis bien longtemps avec un très bon ami à moi.
Ouais.
Je voulais mettre en avant ce métier d'analyste vidéo parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous oublie parce que qu'on est dans le métier.
Mais on a l'impression en France on vous oublie. À l'étranger, j'ai l'impression. Non, ouais, vraiment, Tony. Par exemple, en Angleterre, c'est pas la même donne, la même culture. C'est sûr. Et comment ça se fait? Pourtant, nous, on a ce côté front touch, si je peux me permettre, quand même, ayant cette connaissance sur les supports informatiques et tant d'autres, et on n'arrive pas, donner. C'est fou quand même.
On est peut-être.
À mon avis, vous allez réussir plus, Tony. Excusez-moi, vous allez réussir plus dans un club tel que le Barcelone ou l'Atlético que, par exemple, Marseille, Paris ou Lyon aujourd'hui en France, dans votre propre pays.
Réussir, je sais pas, parce que nous, les analystes, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que le métier, c'est encore compliqué de s'imposer, d'avoir des contrats cohérents et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est peut-être aussi réussir de partir d'être en France, de partir de rien, parce que en France, à côté, comme tu le disais à juste titre, à côté des Anglais, en France, on fait rien sur la vidéo. Donc c'est peut-être aussi bien d'être dans un club français en tant qu'analyste vidéo aujourd'hui et de se former vraiment que d'arriver dans un club tel que c'est tout aussi bien, mais tel que Manchester City, où est-ce qu'ils ont une vingtaine d'analystes vidéo et ok, t'as un contrat, mais
alors 20 analystes vidéo. En France, on en a combien, par exemple, pour un club? Allez, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Mais je suis sérieux.
Généralement, il y a une moyenne. Stop-moi, Flo, si je me trompe.
Alors, Flo.
Il y a une moyenne en Ligue 1. En Ligue 1, ils sont en moyenne 2.
Ouais, 2 pour les clubs du top 10, 2. À partir de 2-3 analystes vidéo, on a un bon staff vidéo, on va dire. Et les clubs qui, on espère, vont de plus en plus se démocratiser vers la vidéo. Ils commencent doucement avec un seul analyste.
Moi j'avais une question,
c'est de vraiment les jeunes et les moins jeunes d'aller s'inscrire dans cette école du métier du football. Il y a du travail là. Il y en a 20 là-bas. Il y en a 20, il faut en mettre beaucoup plus d'analystes vidéo. Il a raison, Tony, et même aussi Florian. On t'écoute.
Moi, j'avais une question en fait sur ce logiciel en question. Sur quoi il s'appuie? Parce qu'en France, tu l'as dit, on est plus traditionnel, on est plus un peu à la Giroud. Tiens, ce joueur-là, il a une bonne patte gauche, avec des recruteurs, avec des longues vestes qui attendent les parents ou les joueurs à la sortie du terrain. Là, sur quoi vous vous appuyez? Est-ce qu'on s'appuie sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on s'appuie sur l'analyse des rematchs tels qu'on peut le voir, des replays et des analyses de séquences vidéo, de phases de jeu, etc. Sur quoi vous appuyez?
Moi, je vais laisser Flo un petit peu parler de ce logiciel parce que c'est le c'est le boss un peu là.
J'ai pas ouvert l'école. En tout cas, le développeur.
C'est Flo, on va dire le geek. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai à dire de ce logiciel, c'est que il est top parce que tu peux tout faire. Dis-moi ce que tu aimerais que moi je sorte de la vidéo. Avec ce logiciel, on le fait. On peut le faire. C'est-à-dire que le logiciel, quand tu l'ouvres, c'est une page blanche.
D'accord, ok. Donc ça part d'une page blanche. Ensuite, il y a les paramètres à intégrer.
Et après, tu fais vraiment ce que tu veux du logiciel. Dis-moi ce que tu veux que je fasse avec ce logiciel. Je te dis, c'est possible.
D'accord, ok.
Rien n'est impossible.
Dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu joues ou comment tu joues.
Exactement.
On l'écoute, Florian.
C'est ce qui est vraiment bien avec ce logiciel, c'est que tu pars de rien, mais après, il faut savoir parler avec les coachs, savoir ce que le staff attend. Et à partir de là, déjà, tu peux te faire à toi tes stats, des statistiques sur l'adversaire, mais aussi, surtout, avoir beaucoup de données. Et justement, avoir des données pour vérifier le projet de jeu avec les coachs et tout ça, c'est très intéressant. Tu fais tes montages vidéo en fonction des points forts, des points faibles de l'adversaire. Tu t'en sors très facilement. Et c'est très interactif. Une fois que tu es pris dedans, tu as envie d'encore plus le pousser parce que le logiciel, en soi, il n'a aucune limite. La seule limite que tu vas avoir, c'est toi et ta logique de faire. C'est tout.
D'accord. Ouais, moi qui suis dans le marketing, je pense que ça fait un genre de SWOT où ça analyse les forces et les faiblesses des équipes en face.
D'accord.
Et donc, ouais, c'est intéressant.
Très mais intéressant.
Je pense qu'il faut aussi, je ne sais pas si vous le faites, est-ce que vous gardez le côté terre à terre, en fait, de l'analyse vidéo au-delà du logiciel,
bien sûr.
En fait.
Bien sûr, dans la vidéo, et en même temps, je ne sais pas si je suis très objectif, je le défends ce métier, mais avec ce logiciel, il est top, mais tu as une obligation d'avoir un analyste, comme tu dis, quelqu'un qui est là, qui garde les pieds sur terre, qui est, comme tu le dis à juste titre, qui est très, très terre à terre. Et avec ce logiciel, si t'as personne derrière, tu peux rien faire non plus. C'est pas le genre de logiciel où le match il va se terminer et il te sort toutes les stats et ainsi de suite. C'est à toi vraiment de créer ce que tu veux mettre en place et après de le faire avec ce logiciel.
Ouais, donc ouais, c'est pas on appuie sur un bouton et ensuite on a un résultat. Il y a vraiment un vrai travail d'analyse derrière.
Exactement. Ouais, bien évidemment.
On rappelle les formations dans cette école, l'école des métiers du football du côté de Boulogne en région parisienne. Formation coach mental, formation analyse vidéo, formation recruteur et aussi formation manager général et formation journaliste sportif. Une réaction peut-être avec le coach Tollet.
Ouais, bah écoute.
Rapide. Oh, le coach Tollet, on va faire juste une courte pause. Excusez-moi, le coach Tollet. C'est vrai que j'ai pas regardé le timing et on revient avec ta question, le coach Tollet. Désolé, restez avec nous. Des questions aussi avec les invités ce soir au 01 53 48 3000.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Tony Ayache et aussi de Florian Cusenza de l'école Les Métiers du Football que vous pouvez retrouver justement dans la région parisienne du côté de Boulogne-Billancourt. Et oui, une magnifique école qui vient d'ouvrir pour vous, les petits, les plus grands. Comme vous voulez, des formations, le coach mental, formation analyse vidéo, on le rappelle, formation aussi de recruteur. Eh oui, recruteur, c'est un métier qui plaît tant comme analyste vidéo. Et sans oublier la formation de journaliste sportif ou encore de manager général. On revient à ta question, le coach Tollet. J'espère que tu l'as pas oublié.
Non, j'ai pas oublié, mais c'est moi ce que je trouve vraiment génial, c'est tu sais, on parle souvent du terrain et on oublie l'importance de tous ces métiers, de tout ce travail d'ombre qu'il y a autour, qui fait tout, qui est extrêmement important. Et c'est vrai que quand tu vois le métier de journaliste sportif, on connaît quand même, mais après voilà, pourquoi pas, mais de recruteur, d'analyste vidéo, il y en a quasiment pas en France et autres. Moi je vois pas d'ailleurs pourquoi on continuerait à négliger ou à faire semblant en France à être et on aime bien ce côté conservateur aussi, voilà, on aime pas
ce côté traditionnel.
Et puis on se cache souvent sur le fait mais nous on a une super formation donc c'est bon, ça suffit. Ouais, je vois déjà un petit peu de trucs venir. Et en fait non, moi je les félicite parce que c'est bien, c'est tellement important tous ces à côté, la préparation mentale mais essentiel au très haut niveau, même à un petit niveau, c'est essentiel. Donc non, bravo à eux.
Même
bravo
s'appuyer, sur la, même s'appuyer sur la digitalisation. Aujourd'hui, il y a toute la société qui se digitalise. Et pourquoi pas le football?
On a l'impression que ça arrive au bon moment. Cette école, je le rappelle, démocratise un peu ses métiers, ses fonctions. Quoi. On n'a pas l'habitude. C'est plutôt du bouche à oreille de rentrer dans des clubs. Ouais, c'est sûr. Assez difficile. Il faut le voir comme ça. Il n'a pas tort, le coach.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, tu vois, cette école aussi, pourquoi ces métiers-là un petit peu on se pose la question tous les ans, pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions?
Ouais,
et à
c'est
un
vrai.
Moment donné aussi, nous, le foot français,
ça pose beaucoup.
Il faut qu'on se professionnalise de plus en plus. Comment ça se fait qu'alors les clubs étrangers, eux, ils la gagnent? Ok, il y a plein de choses autour, mais voilà, ils ont des analystes. Ils en ont, comme je te le disais tout à l'heure, Manchester City, ils en ont une vingtaine.
Ouais, une vingtaine.
Et c'est pareil pour les recruteurs aussi.
Ouais, c'est pareil pour les recruteurs.
Parce que tu vois, en Angleterre,
ils mettent les moyens, les mecs.
J'avais fait une formation de recruteur et ils me disaient qu'en Angleterre, c'était beaucoup plus facile de trouver un boulot si tu voulais trouver un.
Justement, pour rebondir sur l'aspect de recruteur, moi, je suis fan de Première Ligue et supporter d'Arsenal Football Club.
Ouais.
J'ai vu que les recruteurs ont été démis de leurs fonctions récemment, notamment Arsenal, par dizaines. Et ils ont conservé simplement les analyses vidéo. Donc on voit même que l'analyse vidéo prend même le pas sur le recruteur, on va dire, à l'ancienne. Donc ouais, ça va clairement dans le sens de ta formation.
Après, si je peux me permettre,
vas-y Florian.
C'est un petit peu deux catégories différentes, dans le sens où l'analyse vidéo, il fait vraiment partie du staff. Il est vraiment avec le coach, avec le
préparateur
physique. Et le recruteur, il est un peu plus en retrait, il est avec le directeur sportif et tout ça.
Tout à fait.
Voilà. Ouais.
Quand ils sont écoutés, les recruteurs, hein, parce qu'en France, c'est pas toujours le cas.
C'est fou quand même.
Eh oui.
Ouais, c'est compliqué.
Bien sûr.
Pour les inscriptions, comment ça se passe, Tony? Pour tout cela, on s'inscrit juste.
Exactement.
On a le contact, par exemple, sur le site internet école des métiers du football.fr, c'est bien ça?
Exactement.
Et on a toutes les infos.
Vous avez vraiment toutes les infos sur le site. Après, on est une école, on est des personnes très très motivées, très investies.
Okay. Ouais.
Donc, il y a même un numéro de téléphone. On n'a pas eu peur de mettre un numéro de téléphone
pour
que vous puissiez nous contacter si vous avez n'importe quelle question. On est très ouvert. On bosse vraiment jour et nuit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. À vous préinscrire sur
les auditrices et les auditeurs de Beurre FM vont pas hésiter parce qu'il y a beaucoup d'amoureux du football qui écoutent cette radio de la diversité. Oui, on t'écoute. Avant de partir du côté du Parc des Princes.
Oui, moi j'avais juste une question par rapport à la formation, puisque tout à l'heure j'ai employé peut-être le terme un peu réducteur de stage. Est-ce que tu peux nous parler du côté en fait immersion en club?
Bien sûr. En fait, là, moi, je vais vous détailler un petit peu et rapidement, j'essaye de vous détailler cette formation d'analyste vidéo. Elle se déroule sur une saison entière, ok?
Donc carrément.
De début août, ok? Parce qu'une saison, ça reprend début août, on a la prépa et on en fait partie, nous les analystes, jusqu'à fin juin. Donc elle se déroule sur tout ce temps-là, c'est-à-dire 10 mois, je dirais même 11. Après, les élèves ont 3 semaines en présentiel sur Paris avec nous, ok? Où est-ce que là, ils sont vraiment sur l'utilisation du logiciel? Et toutes ces choses-là. Donc nous, on essaie de les former un maximum de temps là sur Paris, ok. Et après le reste de temps, ils sont en club. Ils sont en immersion totale dans le club. Le club nous leur avons trouvé. Par exemple, là, on a 2 stagiaires au Girondins de Bordeaux. On a un stagiaire au Paris FC. On a un stagiaire avec moi à l'En Avant Guingamp. On a des stagiaires au Valenciennes FC. À l'OGC Nice. Voilà, on a des stagiaires vraiment un petit peu partout dans des clubs très cohérents qui travaillent très très bien. Donc ça, on en est très très fiers. Et c'est un vrai bagage pour eux de pouvoir être dans un club professionnel et d'être et d'être au contact d'analystes confirmés dans ces clubs-là, ils se trompent pas, et de coachs confirmés.
Ouais.
Donc c'est top. Et en plus de ça, quand ils sont en présentiel avec nous, on essaie de leur faire beaucoup de partage d'expérience. Donc nous, on partage notre expérience Flo et moi, qui est malgré tout petite, minime, mais c'est super important notre expérience, et en même temps on fait venir des intervenants, ok, un maximum de fois,
bien sûr,
pour partager leur expérience. Par exemple, lundi on a eu Frédéric Bompard qui est venu voir les élèves, qui est quand même quelqu'un dans le football, qui a été une vingaine d'années adjoint de Rudy Garcia au LOSC quand ils ont fait le doublé, à l'Olympique de Marseille quand ils sont allés en finale de l'Europa.
On l'a reçu sur l'antenne de Beurre FM.
Voilà, à l'AS Roma et ainsi de suite. Donc
c'est complété même par des invités de prestige et une expertise au plus haut point.
Je vous dis pas tout, je vous laisserai savoir.
On laisse découvrir cela. Okay. En tout cas, l'école des métiers du football est la première, on le rappelle, école en France à proposer de l'alternance au sein des clubs professionnels et semi-professionnels. Moi, à mon âge, si j'aurais eu ça, j'aurais fait des massacres.
C'est clair.
Ouais. On va passer au Paris Saint-Germain, justement, et on reviendra avec cette fameuse école des métiers du football, avec le coach Tolé. Draxler, justement, sort le Paris Saint-Germain, lui, du marasme contre les Messins.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, Valentin, merci Draxler.
La saison est lancée.
Eh oui.
Et franchement, c'est inespéré.
Un but à 0.
But à la 93e minute de Draxler. Il s'est bien présenté dans la surface. Mais on voit les Parisiens à la fin du match fatigués, rincés. Mais je pense que.
Que se passe-t-il à Paris?
La saison est lancée, et je pense que c'est un peu prématuré. Hein. Dimanche prochain,
bon,
tu
vas. Il a lancé déjà le compteur, ça c'est
avec un effectif diminué, avec un Bernat blessé, avec.
Avec beaucoup d'absents. Voilà. C'est compliqué, maintenant il faut recruter au poste de latéral gauche, et c'était pas prévu normalement.
Le problème est à droite,
est suspendu, donc ça fait pas de latéral gauche. Finalement,
ça sera dur.
Donc on a vraiment un effectif qui est amoindri, ça va être compliqué pour la suite. Après, ça reste le Paris Saint-Germain, donc ils ont quand même l'équipe bis. Mais quand on voit l'équipe bis jouer les matchs contre Lens, contre Marseille et là contre Metz, c'est inquiétant.
Ouais, le Corona est là, est toujours là. Gestes barrières, faut les appliquer aussi.
C'est comment le PSG, on parle du PSG avec leurs moyens illimités, se retrouve à être limité en termes d'effectifs.
Et en fait, d'accord avec toi.
En fait, t'entends ça, c'est un Tony. Peu partout. Ah ben le PSG n'a pas, ils ont pas d'attaquants, ils ont pas ci. Comment le Paris Saint-Germain, quelle est la politique réelle? On en est où réellement? Comment tu te retrouves aujourd'hui à pas être capable?
Quand on voit que
Cavani
est parti, Thiago Silva est parti, Meunier est parti, et là avec le Covid, le contexte de recrutement il est assez compliqué.
Tu m'as dit Cavani, on est d'accord. Thiago Silva,
il y a plusieurs critères.
Comment le PSG avec les moyens qu'ils ont,
prolongations, il y a les blessures, il y a le Covid. Donc ils ont été franchement en termes de critères qui ont impacté le PSG, c'est quand même assez
On parle d'une équipe qui a les moyens limités, qui ne peut pas faire autrement. Mais pour moi, d'un point de vue politique, je suis désolé, ils se sont foirés.
Florian.
Sauf que tu as Mbappé, tu as Neymar, quand ça tournait, qui ont eu la chance de pas être trop blessés, qui c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais quand tu regardes l'effectif, a toujours été limité. Et là, on le voit maintenant, on est en train de le PSG. C'est pas normal que le PSG avec les moyens.
Analyse de la Champions League, on le rappelle.
Je pense qu'il faut dissocier les moyens. Alors,
Florian, la réaction. Et on aura aussi Tony sur le Paris Saint-Germain.
Après, on parle de 5 départs. Il y a eu qu'une arrivée, c'était Florenzi. Il est arrivé la semaine dernière.
Très bon Florenzi d'ailleurs.
Très belle performance.
Très belle recrue.
Faudra attendre encore.
Mais ce qu'on a vu face à Marseille, la qualité de ses centres, ça change un peu de Thomas Meunier, quoi. Et après, ne serait-ce que le coronavirus, t'as perdu 5 joueurs importants face à Marseille encore, avec Navas, Paredes.
Sans parler des suspensions.
Et
aussi.
Là, en plus, t'as encore perdu 3 autres joueurs. Moi, j'aimerais voir, par exemple, un autre club qui joue la Ligue des Champions. Si tu en rêves, là, on parle un peu moins d'une dizaine de joueurs. Et c'est pas des joueurs remplaçants, c'est des joueurs titulaires. Qu'est-ce que ça donnerait?
Cette équipe bis du Paris Saint-Germain, là, je sais plus qui le disait tout à l'heure, cette équipe bis, malgré cette équipe bis, normalement, ils sont censés être au-dessus.
Ils doivent être au rendez-vous, mais au vu de ce qui s'est passé les 3 derniers matchs.
Ils le sont pas. Cette équipe bis, et mais là, dans n'importe quel club de Ligue 1, ils vont réussir. Donc, est-ce que c'est cette équipe, ces joueurs qui ont un souci? Ou est-ce que c'est pas comme tu le disais à juste titre? Le club qui gère mal.
Il faut savoir qu'au PSG, ils n'ont pas une boule magique qui prédit l'avenir et ils vont se dire. Je prends notamment l'exemple de Sarabia. Sarabia a été prédestiné à prendre la relève en qualité dans l'équipe bis, mais il n'a pas été au rendez-vous. Donc ça, on peut pas le deviner.
Ça veut dire, le constat que je fais, ça veut dire que malgré les moyens qu'ils ont, ils sont pas bons les mecs par rapport aux moyens. Attends, on parle quand même du PSG qui a des moyens surdimensionnés par rapport au reste de la Ligue 1.
Niveau des attentes, ils sont pas au rendez-vous, tout simplement. Donc c'est pas un problème de management, c'est pas un problème de moyens.
Je pense que c'est un problème de performance.
Est-ce qu'on les attend vraiment sur le mois d'août? Ou est-ce que comme toutes les années, on les attendait au mois de février, et à chaque fois au mois de février, ils sont plantés? Avec Lyon, c'est les deux seuls clubs qui ont joué, la Ligue des Champions, à Benfica, qui ont repris. En Angleterre, ils ont repris seulement ce week-end, mais les équipes qui ont joué à Benfica n'ont pas encore repris. Moi, le début de saison du Paris Saint-Germain, il va pas m'intéresser. De toute façon, le championnat, ils vont gagner. Et peut-être que cette année, ils seront prêts.
Peut-être pas cette saison. Je pense que c'est un peu prématuré de dire ça.
Florian.
Lors de la finale de Ligue des Champions, le PSG fait rentrer qui rentre en jeu? Choupo-Moting? Sans lui manquer de respect, qui d'autre est rentré?
Choupo-Moting qui est sur le départ, encore une fois.
On était pas sur les matchs du début de saison, on était sur une finale de Ligue des Champions. Tu regardes le Bayern de Munich, je pense que les moyens sont quasiment similaires. Il n'y a pas photo. Et donc, je pense que moi, je le dis depuis un petit moment, au niveau du management, je pense qu'ils se sont déchirés. T'as 3-4 joueurs qui sont qui sont au-dessus, Mbappé, Neymar, qui ont eu la chance de ne pas être blessés cette année, et c'est tant mieux. Mais après, derrière, je suis désolé, c'est clairement
en dessous.
C'est
très compliqué, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est très compliqué. Qui, aujourd'hui, se remet d'une défaite en finale de Ligue des Champions à des clubs qui ont disparu de la surface de la Champions League? Je pense.
Ah, mais ça va, ils n'ont pas pris le 4-0
à l'Atlético Madrid, je pense à Arsenal en 2004. Ouais. Ils ont disparu, mais après, il y a eu beaucoup de vents contraires pour le Paris Saint-Germain.
Ils ont eu du temps pour disparaître, Arsenal aussi. Hein.
Oui, bah, bien sûr, ils ont eu du temps.
1-0, quand même. C'est bon, première participation.
Je trouve qu'on tire des enseignements après 3 matchs. C'est assez étrange parce que l'année dernière ils ont quand même fait l'une des saisons les plus historiques, voire la plus historique, parce que c'est quand même quadruplé national.
Mais moi je dis pas le contraire.
Après ouais, toi tu parles du jeu plutôt.
Je parle des moyens, je vais plus loin, je me calme pas.
Le rapport entre moyens et
il prend beaucoup de recul, Claude, par rapport au PSG.
Non mais même par rapport à la saison que tu viens de voir. On sait qu'en Ligue 1 ils sont au-dessus et félicitations eux, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, ils ont réalisé un quadruplé et Tourelle on l'attend toujours pour le dénoncer. Il l'a fait quand même, le quadruplé, mais ça on le met jamais en avant, mais c'est quand même le coach, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il met en place. Mais même quand il lorsqu'il flambait sur la partie nationale, pour moi, j'estimais que l'effectif était encore limité. Souvent, on le disait, mais c'est pas ça.
Moi, je pense que c'est justement le management qui est limité. Je pense que c'est le coach qui est limité. On a l'impression qu'il change de schéma à chaque fois. Ce qui ressort de son schéma à chaque fois, c'est cette tripartite devant, Neymar, Mbappé, Cavani à l'époque et aujourd'hui Icardi, qui lui font gagner les matchs. On n'a pas l'impression que c'est sa culture tactique ou c'est ses schémas tactiques qui font gagner les matchs.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, il y a un an, moi, je me rappelle, avec tous les recrutements qu'il y a eu du côté du Paris Saint-Germain, on disait, il y a une doublure à chaque poste, en plus des bonnes.
Je suis d'accord au départ.
Et on disait, c'est comme Manchester City qui a des doublures à tous les postes. On s'est dit, ça fait longtemps que.
Je suis carrément d'accord avec toi.
Et là, on arrive à. Ah non, c'est vrai, c'est la réalité. On arrive à dire que maintenant, on est un peu limité en termes d'effectifs, alors qu'il y a un an, c'était pas forcément le cas.
Si demain, il arrivait la même chose à l'Olympique de Marseille, enfin que ce qui arrive au Paris Saint-Germain, je pense que il serait prêt à aligner Mohamed Hennie, Bengus, il serait très très impacté.
Au départ, je parle quand même que le PSG a des moyens illimités, ça on le sait, et pour moi, la stratégie a atteint sa limite.
Il y a quand même un fair play financier, il y a quand même plein de jeux financiers à mettre en place, des moyens limités. Ils achètent des joueurs et les font jouer le lendemain. Il y a plein de jeux financiers à mettre en place.
Mais je suis d'accord avec toi, mais il est là le problème. C'est que le PSG, Neymar, Mbappé, t'achètes des stars, c'est très bien. À toi, à un moment, d'être malin. Les petits clubs sont malins. Marseille n'a pas le choix, est obligé d'être malin. D'autres clubs sont obligés d'être malins. Donc, il y a un moment, le PSG, avec les moyens encore, je le dis, qu'ils ont, doit être capable, à un moment, de pas forcément prendre des gros joueurs, mais des joueurs de devoir, capables, tu sais, de répondre vraiment présent.
Je suis d'accord avec toi,
c'est que l'année dernière, c'est vrai qu'il y a un an, on disait oui, tous les postes se sont doublés, et malheureusement, on se retrouve un an après à avoir des joueurs qui sont malheureusement pas au niveau. Donc, pourquoi on se retrouve avec des joueurs pas au niveau, des joueurs comme Diallo, enfin les gars, ils sont fantomatiques quand ils jouent.
Surtout qu'ils jouent pas.
Non, après, je pense que faut encore continuer à attendre un petit peu avant de continuer à rêver plus grand. Ils ont déjà franchi un cap, ça viendra. Quand on regarde les nouveaux clubs qui sont arrivés, je parle de Paris, City, les nouveaux clubs d'investissement comme ça. Paris récemment, c'est le seul qui a réussi à atteindre ce stade-là.
Exactement, c'est tout à leur honneur.
Championnat où City, c'est un niveau relevé, ils n'ont pas l'habitude de se confronter avec des équipes qu'ils vont rencontrer en quart de finale, en demi-finale et même en finale de Ligue des Champions. Et je pense surtout qu'en finale de Ligue des Champions, si on regarde à la mi-temps, si le Paris Saint-Germain mène 1-0 à la mi-temps, mais il n'y a personne qui crie scandale. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, ils étaient épuisés. L'occasion de Di Maria, qui tire au-dessus. L'occasion de Mbappé, la passe de Mbappé à Neuer.
Analysons les matchs sur la durée.
Incroyable de Neuer.
Mais il y a eu des occasions.
En première mi-temps, tu as 3 grosses occasions. Le Bayern, ils ont un poteau et une frappe.
Analysons les matchs sur 90 minutes. Dans ce cas-là, on peut dire la même chose de l'Olympique Lyonnais. On peut dire, il n'y aurait pas vol si l'Olympique Lyonnais avait mené à la mi-temps par exemple. Donc je pense qu'il faut analyser les matchs sur la durée.
Après, il y a des joueurs. On parle d'un autre problème, c'est que le PSG et Lyon, c'est les deux seules équipes qui avaient à Benfica qui n'avaient pas repris encore de matchs officiels, mis à part les matchs de Coupe de France.
Je pense que le problème est juste psychologique au Paris Saint-Germain.
Je pense pas, parce que c'est les deux équipes quand même. Quand tu regardes le Bayern, ils sont quand même au-dessus de Paris, mais le Bayern. C'est physiquement qui en deuxième mi-temps ils ont déroulé sur Paris.
Là où je te rejoins, ce qui est extrêmement délicat, tu l'as dit tout à l'heure, tu perds une finale de Ligue des Champions, c'est psychologiquement très difficile, et tu n'as pas cette coupure. cas en général, même les joueurs pro.
Pour digérer, où tu pars en vacances, où tu reprends les matchs amicaux avec des nouveaux maillots. Voilà, là, on joue déjà avec les maillots de la saison suivante.
C'est vrai qu'on se rend pas compte. On est là, on n'est pas à FIFA. Les gars ont besoin quand
même. Non, mais ils sont pas dans FIFA, justement.
Ils sont dans le réel. Ils sont trouvés être au repos, forcés. Mais c'est vrai qu'en l'espace d'une semaine à 10 jours, tu bascules sur la deuxième saison. Et là, dans les têtes, non, t'as pas récupéré encore. Donc, ça peut être un argument aussi.
Après, Bilal, tu parlais de Draxler tout à l'heure. Qui a regardé le match hier?
Ouais.
Moi, j'ai regardé. T'as
regardé le match? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Draxler?
En fait,
à part le but.
Je me suis dit, avec son but.
C'était catastrophique.
Avec son but, tout le monde va retenir le fait qu'il est marqué.
C'est ça, Tony est d'accord avec toi.
Tout le monde va retenir le fait qu'il est marqué, alors que sa prestation est vraiment très, très, très moyenne.
Ouais. Exactement. Aujourd'hui, je vois Draxler partout. Alors que c'est un joueur que. Enfin, moi, j'ai connu le Draxler de Schalke à 17 ans. Ensuite, bon, son passage à Wolfsburg, etc., ça a été compliqué. Mais Draxler, il s'est entêté à rester. Hier, il a joué de manière dénaturée. Il joue dos au but. Il est lent. Alors, on l'a connu pour avoir une grosse frappe. Hier, à part le but, c'était clairement zéro.
Merci, Mourad.
Dernière chose. Faut parler quand même du club qui a permis de relancer, si je puis dire, entre guillemets, même si ils vont jouer Nice dimanche prochain. C'est le FC Metz. Pour moi, c'est le FC Metz qui a perdu. Et c'est pas le PSG qui a gagné. Ils étaient infiniment.
En plus, à 9 contre 11,
à 9 contre 11, je pense qu'ils ont réalisé même une prouesse, de perdre un 9 contre 11 face à une équipe en Ligue 1.
C'est la deuxième fois que ça arrive, d'ailleurs.
La deuxième fois? D'accord, ok. Donc, et en plus, c'est le plus allemand des clubs de Ligue 1 avec le Racing Club de Strasbourg qui relance Draxler. Donc là, on a tous les, là, on a le chapeau, l'imperméable.
La capitale française. Et rapidement, on va s'attarder sur Tottenham.
Time Sport. Le duel.
En une minute, on va laisser la parole à Mourad. En tout cas, très pertinent, Florian, je tiens à le dire. Même Tony. Mais là, moi, il m'a percé sur le.
Écoute, moi, ça m'a percé. D'élever le niveau, d'élever le débat.
Mais vraiment, ce qu'il a dit, c'était assez intéressant. Vraiment intéressant. On t'écoute. À Tottenham, direction, Londres.
Oui, direction
le golf peut-être.
Très belle ville.
Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais enchaîner. Parles du golf.
Je te parle du golf. Si tu me parles du golf, je te parle de Gareth Bale.
Gareth Bale,
le sport favori de Gareth Bale. Effectivement, a priori arrivée imminente du côté des Spurs.
Et Barnett, son agent
de Tottenham. Donc avec Barnett, effectivement, on a des agents les plus influents. Merci Bilal. Donc je pense que c'est une bonne chose. Imaginez le trident offensif à Tottenham avec Harry Kane, Son et Bale. Ça a l'air pas mal quand même. Et il revient à la maison, donc je pense qu'il y aura pas de période d'adaptation. Bien au contraire.
On reviendra sur ça, c'est promis dans ces émissions de Time Sport du lundi au vendredi 19h-20h. Reste avec nous la dernière pause avec Tony Ayache et sans oublier notre invité le second Florian Cusenza.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de nos deux invités, je le rappelle, de cette fameuse institution, l'école des métiers du football, EMF, et oui, que vous pourrez retrouver en région parisienne du côté de Boulogne-Billancourt. Et il y a Yann qui me dit, à quand une école du côté de Nice? Voilà, ça c'est pour la petite dédicace, à savoir on demandera, peut-être on aura les informations. Mais on va s'attarder avec Tony Ayache et aussi Florian Cusenza. On n'oublie pas le coach Tolé pour m'accompagner jusqu'à 20h, sans oublier Valentin là aussi et Mourad. Avec cette école, justement, ça promet d'avoir là aussi des jeunes pépites en tant que recruteur, on espère, en tant qu'analyste vidéo ou encore même journaliste sportif. Que dire, Mourad? Ouais, la formation. Valentin, en tout cas, il est intéressé.
Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Je pense que ça peut être, on va dire, la vitrine de ceux qui veulent exercer et professionnaliser leur expérience dans le monde du football. Il y en a beaucoup qui exercent derrière les rideaux, comme le disait Claude tout à l'heure. C'est des métiers un peu de l'ombre, analyse vidéo, recruteur, tout ce qui tourne autour en fait des directions sportives. Et je pense que c'est le meilleur moyen, en s'appuyant sur de la technologie, de faire évoluer les performances de son équipe. Et honneur.
Ce qui peut être intéressant pour ce type d'école, ce sont malheureusement les joueurs qui sont en centre de formation. On sait très bien qu'il n'y a quasiment aucun joueur qui sort. Ça, c'est une réalité. Il faudrait le dire ouvertement quand même aux parents qui s'enflamment pour pas grand-chose.
Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme le disait
C'est une réalité. Donc avant tout, ce qui est important, c'est de former des hommes et j'espère à l'avenir des femmes, centre de formation pour les femmes aussi. Mais voilà, dire aussi à ces jeunes que même si tu ne peux pas être footballeur professionnel, tu as ces métiers qui te permettent quand même de rester dans le milieu. Et
ça ouvre des portes.
Carrément.
Puisqu'on a, on a le schéma classique, j'ai pas percé dans le football, je rebondis en tant que coach, là aujourd'hui, à travers ce type de formation, on peut rebondir sur d'autres métiers, c'est ce qui est intéressant.
Bien sûr.
Oui, Valentin, ou peut-être avec Florian.
Je voulais savoir, au niveau du journalisme sportif, si on pouvait avoir quelques infos, si ça se jaugeait de la même manière.
Ouais.
sur la formation journaliste sportif.
Oh, excuse-moi là.
Non, tu me tires pas une balle du tout. Non, au contraire, moi tant qu'on parle football, on parle de tout ça, moi ça me plaît, ça me va, tu vois. Il y a pas de souci sur la formation journaliste sportif, elle se déroule un petit peu comme la formation recruteur et la formation analyse vidéo et ainsi de suite, OK. Ouais. On est vraiment nous basé, je tiens à le rappeler, sur vraiment déjà le terrain, hein, les personnes, les intervenants, on est, si ce n'est peut-être même, j'ai pas envie de parler pour rien, mais les seuls en France à faire en sorte que les formateurs, ils sont en club. Moi, je suis en club. Flo, il est en club. On n'est pas des, c'est pas scolaire. Voilà. Ouais. Nous, on leur donne en même temps des billes sur ce qu'ils peuvent éventuellement rencontrer, sur le terrain. Et la formation journaliste sportif, c'est un petit peu la même. Ils sont formés par des personnes, qui sont déjà sur le terrain,
ouais.
Voilà, je vous donne pas tout parce que la com, elle arrive là tout doucement.
Bien sûr. Ils sont sur Beurre FM, peut-être. Mais, pourquoi pas? Exactement. Moi, j'aimerais bien donner des cours là-bas.
Exactement.
Hein? Bien sûr.
Donc voilà, elle se déroule, ils vont avoir des moments en présentiel, où est-ce qu'ils vont bosser sur interpréter des textes, comment interviewer, ouais, ainsi de suite, voilà, avec des personnes compétentes. Moi, c'est pas mon métier, donc
en tout cas ça sera assez complet, Tony.
C'est bien ça, les formations de fou,
ils seront vraiment au contact du monde professionnel.
Ça se jauge de la même manière, t'es sur le terrain et
exactement, ils sont sur le terrain.
J'ai l'impression que le dénominateur commun de toutes ces formations, c'est les clubs. On a l'impression que ce soit pour le métier de journaliste, recruteur ou analyste vidéo, on appartient au club, on est en corrélation, on travaille au quotidien avec le club. Et donc c'est la meilleure légitimité qui puisse exister.
Exactement. C'est très important. En tout cas, c'est le terrain, et pas que le rectangle vert, mais c'est vraiment le fait d'être au contact de la chose et pas que du scolaire, quoi.
Ouais. Donc je te laisse une relance avec aussi Florian.
Non, mais top. Ouais. Non, mais je trouve ça top. C'est bien. Il faut que ça fait du bien d'avoir ce type d'école. C'est vrai que.
C'est nouveau, le
génération
coach.
Années 80, un petit peu avant, on se disait, ouais, on aimerait tellement travailler dans le foot, mais comment, avec quoi, les moyens, enfin bref, ça paraissait extrêmement compliqué. Oui, et là, en fait, voir ce type.
Là, ça a l'air tellement moderne, j'ai l'impression qu'on est comme dans Minority Report avec plein d'écrans sur les côtés. Et
ouvert à tous,
on peut analyser des matchs. Donc
l'école, elle est ouverte à tous aussi.
Est-ce que tu peux rappeler le nom de ton école, s'il te plaît, parce que j'ai une mémoire de.
Ouais, bien sûr. Alors, l'école, c'est l'école des métiers du football. On a fait simple, comme ça parle à tout le monde.
L'EMF.
C'est l'EMF. On est sur Facebook, on est sur Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre. On a un site qui est très très bien fait, très ludique. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu peur de mettre un numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et il n'y a pas d'horaire. Ça fait partie d'ailleurs du métier. On l'inculque à nos élèves.
Ils sont dispo.
Dans le football, il n'y a pas d'horaire.
Ouais, c'est ça.
Si je peux me permettre aussi, c'est.
Alors Florian, on l'écoute.
Bien sûr. Dans ce métier d'analyste vidéo, c'est que c'est ouvert. À titre personnel, moi par exemple, j'ai jamais joué à un grand niveau foot, juste un petit niveau régional. C'était du plaisir. Et quand j'ai réussi à intégrer Montpellier en stage, j'ai vécu un rêve. On parle d'un club.
C'est clair, tu croises Vittorio Hilton dans les couloirs.
C'est des gars en or, tu vis des expériences de fou et c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. C'est pas comme coach. Maintenant, on voit beaucoup de coachs qui sont d'anciens joueurs de centre de formation.
Ouais, c'est tout le temps le même schéma. J'ai l'impression qu'il faut.
C'est autre chose. Moi, ça m'a permis. Quand je suis né, mon père, de suite mis dans le foot et c'était un rêve de voir ces stades, de voir tout ça.
Ouais.
Je suis dedans et
je partage cette fougue et cet amour vraiment.
Moi, j'ai une dernière question.
Florian, c'est pas mal, ouais.
Si je peux me permettre.
Le coach de Tolé aussi.
J'ai l'impression que cette formation, elle s'oriente en fonction du candidat qui a des affinités avec tel ou tel club. Est-ce que il n'y a pas des conflits d'intérêts entre, par exemple, entre toi qui travaille Tony à l'en avant Guingamp et toi Florian
avec Florian vont devenir des stars.
Ça dérange pas les clubs
vouloir faire une
saison de recouvrement?
Non, pas du tout. Au contraire, le métier d'analyste vidéo, il y a une partage entre nous, il y a une solidarité, un peu à différence de la préparation physique où là il n'y a pas d'échange de données. Au contraire, nous on s'échange des données, mais on garde quand même le secret. On essaye d'avoir un travail en commun pour se faire gagner du temps à tout le monde. Il y a des échanges, notamment surtout parce qu'on travaille, tous les clubs travaillent avec le même logiciel. Et ah, ça d'accord, okay. permet d'avoir tous la, plus ou moins la même manière de
les
travailler.
Les clubs étaient ravis, les clubs étaient ravis. Les contacts qu'on a, Flo, moi, dans les clubs professionnels qu'on a mis pour cette école, pour qu'elle puisse avancer. Les clubs étaient ravis quand on leur a présenté le projet, qu'on leur a dit, voilà, nous, on va vous envoyer des élèves qui sont formés sur SportsCode par nous. Alors, on n'est pas les meilleurs analystes français, et ainsi de suite. Mais ils savent, les clubs savent que nous, on est en club, qu'on va les former, voilà, manière club, sur SportsCode, le logiciel.
Bien sérieux.
Ils ont la licence sur toute l'année, c'est à dire quand même, renseignez-vous sur internet quel est le prix de cette licence.
Ah ouais.
C'est compliqué de se procurer des licences comme ça. Donc là, ils ont la licence vraiment sur toute la saison. Ils arrivent vraiment clé en main. Le club, ils ont plus qu'à se régaler avec, avec les jeunes.
L'étudiant arrive, un login, un mot de passe, il est formé et c'est parti. Ok.
Exactement. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, autant pour l'étudiant parce que il se régale et puis le club aussi se régale, permettre d'avancer.
Le coach Tollet, peut-être une réaction. Allez, avec Florian et Tony aussi.
Je voulais dire très intéressant et important. Il parlait d'avoir cette capacité justement de rentrer quand même dans le monde du football pro sans avoir été joueur professionnel. On sait que malheureusement, en tout cas en France, je suis bien placé pour le savoir, c'est compliqué. Voilà, lorsque t'as pas exercé une carrière, on sait qu'arriver à ce stade,
difficile.
Bon, hein, ça devient compliqué. En fonction de,
il y a beaucoup
des noms,
c'est super compliqué.
Et je dis ça gentiment.
Non, mais c'est vrai que c'est très
compliqué.
Non, mais c'est vrai que c'est super compliqué. Ça fait partie, c'est la particularité de l'école. C'est que t'arrives, tu t'inscris. J'ai pas besoin de savoir si tu es Pierre, Paul ou Jacques. Qu'est-ce que tu veux? Je veux faire un stage. Je veux me former sur l'analyse vidéo. Très bien. Il y a tel club professionnel pour toi. Tu es joueur, tu es pas joueur. Tu joues en district, mais viens. Il y a aucun souci.
Ouais,
c'est un tout autre métier. Il faut pas tout confondre.
Ça va même à l'encontre de ce qu'on peut voir aujourd'hui à la Fédération française de football quand on voit les nommés en tant qu'entraîneur, ceux qui passent, les BEPF, ou ceux qui réussissent.
Rester une sorte de secours,
etc. Ben on voit, c'est tout le temps les mêmes personnes, quoi. C'est des anciens joueurs ou c'est des anciennes mini-gloires ou c'est tout le temps les mêmes schémas, on voit tout le temps les
on
mêmes
veut
noms,
de nouveaux
là,
visages,
ça permet de sortir
justement.
Des sentiers battus.
C'est ça, on veut de nouveaux visages.
Exactement.
Ouais, Florian, on l'écoute.
Dans quelques années, ce sera des anciens joueurs qui sortiront en tant qu'entraîneur et ces anciens joueurs, ils feront partie de la génération des joueurs dans lesquels ils ont vécu le football et l'analyse vidéo. Donc ces joueurs-là se rendront compte encore plus de l'importance et je pense qu'ils pousseront les clubs à engager encore plus d'analyse vidéo.
Moi, j'ai rien contre les anciens joueurs. Attention, Florian et Bilal, mais au contraire, moi, je suis pour l'ouverture. Je suis pour à ce que les anciens joueurs puissent partager avec les novices et qui ont une expérience terrain aussi dans le football amateur qui apporte aussi, qui pèse.
Marseille, Saint-Etienne.
Time Sport, le mode pressing.
On va te faire plaisir, le coach Tollet. Marseille, Saint-Etienne, et où il est Stéphanois. Aïe, ils sont un petit peu chauds, hein. En descendant du côté de la cité phocéenne.
J'aurais joué Saint-Etienne, moi je les avais vus déjà contre le PSG. Paris avait eu du mal, mais ils ont été sortis. Hein. Et Saint-Etienne avait dit voilà qu'on a un projet de jeu qu'on va remettre en place sur le long de la saison. Est-ce que ça tiendra? Ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, quand tu vois le début de saison de Saint-Etienne et leurs prestations, bon, c'est pas non plus flamboyant, mais c'est solide. Ça a de la gueule. T'as les jeunes là qui, t'as quelques joueurs que je découvre, Masson et autres, c'est pas mal. T'as Bouanga qui, moi quand je le vois jouer,
il est incroyable, il est incroyable
en plus.
Ouais. J'avais l'international d'abonnés
lors de Nîmes Marseille, à la remontée de Nîmes, il avait fait la misère à la défense marseillaise. Saint-Etienne, ils vont être très chiants à jouer cette année. Ça va être très compliqué pour Marseille.
Ouais, Valentin.
Ça fait plaisir de revoir Saint-Etienne à ce niveau. Et ça fait partie des équipes en début de saison, même si ça fait que trois journées.
Je pense que c'est deux journées, c'est la troisième, puisqu'ils rejouent la première journée
de Marseille. Qui montre quelques signaux déjà positifs. Et puis pour Marseille, c'est un vrai test après le match du Paris Saint-Germain. C'est s'ils arrivent à battre Saint-Etienne, là, on pourra se poser des questions sur la suite du championnat, se dire peut-être qu'il y a moyen.
Un peu trop tôt.
Un peu trop tôt. Après, c'est un gros choc. Donc le gagnant de ce match, voilà.
Florian Anthony.
Tu as des bons enseignements.
Ouais,
moi je pense que. Alors. Moi en tout cas, j'ai toujours été fan de l'OM. Donc j'espère qu'ils vont faire un résultat et puis comme tu le dis à juste titre, lancer leur saison et qu'on commence à nous tous les accompagner, à aller titiller ce Paris Saint-Germain et peut-être, alors je pense pas les faire tomber encore pour le moment, mais en tout cas voilà, mettre un petit peu de suspense et puis
ouais, c'est
bagarrer un petit peu avec nos Lyonnais et ainsi de suite.
Florian. J'espère juste que ce sera un meilleur match à regarder que celui d'hier soir.
Aïe.
Tu parles de PSG Metz, en l'occurrence.
Avec ton pronostic, allez, on va le demander à tout le monde avant la fin de cette émission.
Moi déjà, merci juste simplement Bilal d'en parler, hein, de ce match, parce que pour les puristes, on a l'impression que le vrai derby, c'est OM Saint-Etienne. Je sais pas si vous êtes d'accord autour de la table, mais
dans le temps, c'est vrai que c'est un match phare.
Moi, ce que je regrette, justement, c'est pas cette mise en avant, justement, de cette affiche aujourd'hui dans les médias où on est obligé d'aller dénicher des informations pour savoir que qu'il y aura un OM Saint-Etienne ce soir et avec un Claude Puel qui fête sa 500e, je crois, sur le banc ce soir et avec avec un nombre de supporters limité. Donc la fête sera pas au rendez-vous, mais je pense que les puristes apprécieront de regarder le match. Pronostic me concernant. Alors, moi, je vois bien, même si l'OM est diminué, je vois bien 2-1 pour l'Olympique de Marseille, puisqu'ils sont à domicile.
2-1 pour Marseille. Donc, Valentin.
J'allais dire la même chose.
Ouais, 2-1 pour Marseille. Florian.
Moi, je vois un petit 1-1, mais avec beaucoup d'occasions.
Beaucoup d'occasions, selon Florian. Et le coach Etolé.
Marseille tenu en échec. Un partout
aussi. Ouais. Le match nul comme Florian.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Je suis objectif. Par rapport à la prestation, notamment de dimanche, et Saint-Etienne vraiment les embêter.
Tony, le pronostic avant la fin de cette émission.
Je rejoins tout le monde. Moi, je pense qu'ils vont, l'Olympique de Marseille va l'emporter 2-1.
On va voir ce qui se passera à la suite demain dans cette émission, 19h-20h. On n'a pas eu le temps de parler de la grande boucle. Oui, une minute d'avance, il faut le rappeler, sur son dauphin. Pogačar, est-ce que Roglic, justement, a plié le Tour de France à 3 jours de l'arrivée? On s'amusera à donner toutes les infos sur la twittosphère en la personne de Farid Roy. C'est un grand merci à l'Institut, à l'école EMF, École des métiers du football, et aussi avec nos deux invités de ce soir. Je tiens à rappeler Tony Ayache et Florian Kutsenza, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bye bye.
Merci.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.